L'échappée littéraire, une chronique de Damien Brême. Cher Michel, cher Olivier, chers amis, je vais aujourd'hui vous parler d'une femme que vous ne connaissez très certainement pas et qui s'appelle Bettina Ballard. Alors, ses mémoires viennent d'être publiées en français. Elles ont été publiées initialement aux États-Unis en 1961. Elles sont parues aux éditions Séguier. Et la première question que vous allez me poser, cher Michel, je le vois dans votre regard, c'est qui est Bettina Ballard? Alors, Bettina Ballard fut journaliste pour l'édition américaine du magazine Vogue entre 1935 et la fin des années 50 environ. Mais elle fut surtout la correspondante du magazine à Paris avant et après la Seconde Guerre mondiale. Et ses souvenirs sont absolument passionnants et peuvent être appréhendés d'ailleurs à plusieurs niveaux. Naturellement, elle trace un portrait de tous les grands protagonistes de la couture parisienne. Chanel, Balenciaga, Dior ont chacun droit à un chapitre rempli d'anecdotes passionnantes. Elle les connaît très bien, elle connaît leurs travers, leurs qualités, leurs défauts. Elle passe des vacances avec Chanel, elle file à Madrid avec Balenciaga, elle fait des gueuletons avec Dior, qui est un véritable, semble-t-il, obsédé par les omelettes au caviar et les soufflés au homard. Mais Bettina Ballard évoque également tout l'univers qui gravite autour de ses créateurs. Et il y a d'abord les grands photographes de mode. Ces grands photographes de mode, elle est amenée à collaborer avec eux pour son magazine, et elle trace là aussi des portraits passionnants, et notamment un portrait d'Irving Penn, qui est absolument passionnant parce que c'est un personnage extrêmement torturé, c'est un personnage à qui il faut des fois 7 heures avant de pouvoir prendre la moindre photo. Il y a également le portrait de Cecil Beaton qui lui dispense des recommandations du style « Ne conduisez jamais votre voiture de sport, ma chère, sauf quand vous portez des vêtements de sport, mais surtout jamais après 5 heures. » Et tous ces dictats traduisent à la fois une époque, une certaine mentalité. Elle fréquente également les artistes les plus emblématiques de son époque, Christian Bérard, particulièrement, qui est alors la coqueluche de toute la bonne société et qui est aujourd'hui malheureusement tombée dans l'oubli. Et puis, il y a les clientes des maisons de couture. Ce sont des femmes qui appartiennent à cette fameuse Café Society. Elles sont les arbitres incontestés d'un art de vivre luxueux et plein de fantaisie, et dont le pouvoir repose sur leur capacité à imposer leur manière de s'habiller, de recevoir, de parler, de lancer les endroits et les gens qu'elles fréquentent. Mais ce qui est intéressant dans ses mémoires, c'est que c'est une analyse fort lucide de tout ce système. Parce que tout en évoluant dans cet univers comme un poisson dans l'eau, Bettina Ballard n'est jamais dupe. Elle est encore moins grisée. Et elle dit elle-même que la mode n'est pas un terrain de jeu pour les âmes sensibles, c'est un champ de bataille. Et elle est sidérée quand un jour, une riche cliente italienne lui glisse, je cite, « J'appartiens à cette classe sociale inutile et superficielle dont l'importance réside dans sa capacité à inspirer le luxe, à le demander plus exactement. C'est pour nous que sont créés les bijoux les plus nouveaux et les plus beaux, les vêtements et les fourrures les plus extravagants, les automobiles les plus luxueuses et les plus rapides. Nous stimulons l'instinct créatif des marchands du monde entier. Si nous n'étions pas là, qui encouragerait la mode ?» Cette phrase, naturellement, n'a pas pris une ride. Après 1945, tout s'accélère. L'art de vivre d'avant-guerre est totalement balayé. On n'a plus le temps d'écrire de mémos sur la manière dont la princesse Baba de Faucigny-Lucinge noue un ruban noir dans ses cheveux. Ce ne sont plus les femmes mariées qui donnent le tempo et au loin, on devine déjà l'apparition du prêt-à-porter. Enfin, au magazine Vogue, le département marketing prend le pas désormais sur le département mode, car il s'agit de ne surtout pas froisser les annonceurs. Là aussi, rien n'a changé. Mais ces mémoires ont encore une autre qualité. Derrière toutes ces figures et ces anecdotes, se dessine un portrait de Paris, qui est en définitive un personnage à part entière, avec sa beauté, sa couleur, ses nuances, ses humeurs, ses contradictions, ses traditions et ses mœurs. C'est un Paris en permanente mutation. Et la ville élégante et frivole qu'a connue Bettina Ballard en 1939 laisse la place après la libération à une cité désolée, pesante, soumise aux restrictions et aux privations, et où les clients des maisons de couture sont désormais des femmes enrichies par le marché noir. Un jour, quelqu'un a dit à Bettina Ballard « Si vous aviez fait de bonnes études, madame, ce qui n'est évidemment pas le cas, vous auriez peut-être été un très bon écrivain. » Mais la manière dont Bettina Ballard ressuscite avec infiniment de talent et de délicatesse ce monde perdu prouve qu'elle est un très bon écrivain. Et comme le souligne Frédéric Mitterrand dans sa préface, ce livre s'inscrit parfaitement dans la continuité du « Paris est une fête » d'Hemingway. Alors je vous invite vivement à vous plonger dans les mémoires de Bettina Ballard et je vous propose avant tout d'écouter un extrait du ballet d'Henri Sauguet, Les Forains. Henri Sauguet est un ami, est un contemporain de Bettina Ballard. Le passage que nous allons écouter, c'est l'entrée des Forains. L'Orchestre national du Capitole de Toulouse est sous la direction de Michel Plaston. Il s'agit d'un disque EMI.